Peut-être que, enfin, du coup, je rebondis sur ce que tu disais là, des femmes qui ne sont pas invitées à la fête de la dialectique et qui font une contre-soirée et qui, enfin, du coup, c'est toute la question un peu de l'apolitisme de la femme, quoi. Et en effet, de, bon, y a, enfin, elle renverse du coup l'apolitisme comme étant en fait quelque chose, enfin, une sorte de définition aussi en propre de la femme et qui est pas forcément négatif, quoi. Et à partir duquel il faut agir plutôt que de chercher à rentrer dans la chose publique, en fait, de dire non, on n'est pas convié. Donc, moi, je lis juste rapidement un extrait. Donc, c'est page 58 du livre Crachons sur Hegel, du coup. Alors, c'est bon, le texte est toujours quand même assez obtus, du coup, faut pas qu'on lise des citations trop longues. J'espère que celle-là conviendra. Mais alors, nous envisageons l'apolitisme de la femme traditionnelle comme une réponse spontanée à un univers d'idéologie et de revendications où ces problèmes n'émergent que péniblement lorsque, depuis les hauteurs du paternalisme, on interpelle la masse des femmes pour qu'elles agissent. Bon, en gros, ce qu'elle dit dans cet extrait, c'est que. Enfin bon, déjà ce qu'on disait tout à l'heure, l'apolitisme qui en fait est déjà une forme de réponse au fait de ne pas se sentir vraiment concerné par tout cet univers extrêmement masculin. Et après, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'elle suggère aussi le moment où on interpelle les femmes. Enfin, en gros, le moment où les hommes interpellent les femmes en disant « Mais vous aussi, vous avez des problèmes, énoncez-les. » Et là, elle dit en fait bah, « La seule façon dont ils peuvent sortir ces problèmes à ce moment-là, c'est de façon hyper laborieuse et hyper pénible, parce qu'en fait, on peut pas les énoncer dans cette chose publique qui, en fait, ne nous ressemble
en rien. » Comme dans une AG où il y a que des types qui parlent, et puis carrément, on dit « Bon, les femmes... » Et là, il faut dire un truc pertinent, mais en fait, tu peux que le balbutier, et c'est... La seule chose à faire, c'est de fuir. Enfin, oui, du coup, c'est de poser un silence, mais qui n'est pas un silence vide, quoi. Qui est un silence plein, quoi.
Ouais. Ouais, complètement. Et après, il y a quand même une autre forme, qu'elle imagine, qui n'est pas uniquement ce silence, et qui est aussi le regard ironique, en fait. Ouais, ça, c'est un peu le...
Elle dit ça en reprenant une expression, c'est ça, une expression d'Hegel.
L'ironie
de la communauté.
Ah bah en fait, je sais pas, peut-être que c'est une expression d'Hegel, moi je sais pas.
Crois,
en tout cas, elle m'a beaucoup. Mais en effet, c'est entre guillemets. Dans
c'est
le...
ça qu'elle dit.
Ouais,
et
mais...
qu'est-ce que.
Et bah, elle parle de la femme comme l'éternelle ironie de la communauté. Mais bon, je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre cette expression. Alors, on en parlait un peu hier aussi. Et, bon, y avait,
bah, toi, tout à l'heure, tu disais. Que, bon voilà, Hegel il assigne les femmes à la famille et les hommes à la communauté et à l'État. Peut-être ouais. C'est ça qu'elle entend dire comme ironie de la communauté, la femme comme ironie de la communauté, comme point qui point de dérision de tout ouais. Ce qui est.
Moi j'ai pas compris pourquoi elle était ironique envers la communauté.
Moi, j'ai pas compris ce que tu venais, toi, de suggérer.
C'est pas grave.
Bah, moi, la seule façon que j'ai de le comprendre, et encore, j'ai l'impression que ça marche pas tout à fait grammaticalement, mais ça serait que, en gros, la femme, elle va tourner en dérision.
Ouais, c'est ça.
Ah, d'accord.
C'est ça que j'ai dit.
Ok. J'avais pas compris, du coup. Mais oui, qu'en gros, depuis sa position un peu d'en dehors, à toute cette fête qu'elle voit malgré tout se dérouler sous ses yeux, elle a ou bien le silence ou bien aussi
la dérision
quoi, de ouais. Tourner ça de tourner ça en dérision. Alors je sais pas, on peut imaginer plein de façons, mais le fait de moquer la forme de la politique traditionnelle telle qu'elle se déroule sous les yeux, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on pourrait trouver des équivalents pour nous, quoi. Je sais pas, des moments où tu viens mimer. Enfin, là, même quand tu parles du nager avec que des types qui parlent, le moment où tu viens mimer ça. Alors après, là où je pense que Lindsay, elle en fait une. Enfin, j'ai l'impression que la façon dont elle en parle, il y a quand même quelque chose de très fort, parce que c'est aussi quelque chose d'assez subtil, quoi. C'est pas uniquement une sorte de moquerie qui arriverait depuis un point de douleur, mais c'est aussi quelque chose. Enfin, je sais pas, de fin dans la moquerie et qui permet. Qui permet justement de faire entendre cette position d'en dehors et qui n'est pas en fait du ressentiment, ouais. Forcément, quoi. Mmh. Qui est aussi un truc de. Enfin, je sais pas, une espèce de rire détaché. Et c'est là où il peut y avoir quelque chose de. Je sais pas, d'assez beau dedans, mais. Bon, je.
Tout à fait. Et moi, je propose qu'on me fasse écouter un deuxième extrait des musiques. On vous laisse les découvrir. On vous dira ensuite de quoi il s'agit.
Maro, cut the loose one.
Encore bonjour, vous êtes encore sur FPP et encore vous écoutez La Rouscaille. Ce qu'on vient d'écouter, c'était le chœur des lavandières, précisément des lavandières napolitaines. Ça fait partie d'une pièce de théâtre de Roberto De Simone. Et on va encore vous parler de Crachons sur Hegel, livre de Carlo Alonzi, 1970, traduit l'année dernière en France et publié chez Hétérotopia.
Oui, il y avait un extrait que j'aimais bien, qui se trouve vers la fin, et qui dit la chose suivante. L'homme est replié sur lui-même, son passé, ses finalités et sa culture. La réalité est pour lui épuisée, les voyages spatiaux en sont la preuve. Mais la femme affirme que sa vie sur la planète n'a pas encore commencé. Elle voit là où l'homme ne voit plus. Et juste à la page suivante, ça continue. Nous disons à l'homme, au génie, au visionnaire rationnel, que le destin du monde n'est pas d'aller toujours de l'avant, comme son désir de dépassement l'y pousse. Je trouve ça intéressant cette idée, parce que ça recoupe pas mal de choses. Aussi, ça ouvre un peu sur d'autres imaginaires de libération et d'émancipation. L'idée que c'est pas l'univers qui est à conquérir, c'est le monde à l'intérieur. Enfin, c'est un mouvement pas expansionniste, mais qui rechercherait une suffisance intensive à l'intérieur du monde même. Et ça, ça change pas mal de choses par rapport aux imaginaires de libération par rapport auxquels Carlo Alonzi se place dans son époque. Elle dit à d'autres moments qu'elle refuse clairement l'imaginaire de la prise du pouvoir. Elle veut clairement pas hériter, et c'est un lien avec le refus de la dialectique, du monde qui a été produit par ce qui les oppresse, qui nous oppresse, mais qu'il faut inventer autre chose. Et ça signifie déjà ne pas prendre le pouvoir. Et il y a un autre endroit où elle dit que l'intervention qu'elle appelle de ses voeux peut entraîner l'écroulement des valeurs, l'écroulement de la réalité et des conceptions patriarcales, qui aboutit à l'effondrement non seulement de la bourgeoisie, mais aussi d'un certain type de civilisation masculine. Voilà, et je sais pas, j'aimais bien ce passage, parce que je trouve qu'il ouvrait sur pas mal de choses.
Et oui, et du coup, on a l'impression que cette civilisation masculine, c'est... je sais pas, on pourrait la traduire par l'idée progressiste, quoi. Enfin, l'idée du progrès. Et parce que aussi, c'était un truc hyper fort dans le marxisme de considérer que l'histoire, c'est un espèce de processus linéaire, homogène, et qui fait passer les sociétés par différents stades, différentes étapes, quoi. Alors, on vient des sociétés primitives, sans économie, sans État, jusqu'aux sociétés avancées, développées. Et il y aurait encore des pays qui seraient moyennement avancés ou arriérés, et du coup, qui devraient être dans des phases de rattrapage. Enfin, l'économie, c'est comme ça qu'elle parle aujourd'hui des pays, les PMA, quoi. PMA,
ouais, en voie de développement.
En voie de développement. Comme s'il y avait une seule issue possible pour les sociétés dans un mouvement comme ça, presque, je sais pas, métaphysique, quoi, qui conduirait du non-développement vers le développement. Et elle propose, je sais pas, de sortir de cette vision presque téléologique, quoi, de l'histoire.
Ouais, et puis il y a même, y a une autre, enfin, c'est pas uniquement, il faut sortir de cette ligne qui est toute tracée par le progrès, c'est aussi qu'elle propose, enfin, en gros, moi, ce que je trouve vachement intéressant dans l'extrait que t'as mentionné, c'est qu'on a l'impression que, en gros, là où l'homme, il va... En fait, c'est un peu un ogre, il va essayer de manger un peu tout ce qu'il y a autour de lui, quoi. Donc, une fois qu'il a conquis les espaces sur Terre, il faut aller conquérir les espaces sur la Lune. En fait, il faut toujours essayer de s'approprier, de coloniser comme ça toujours plus d'espace. Et c'est la seule condition à laquelle il arrive en permanence à se renouveler, à vivre, en fait. Enfin, c'est sa nourriture, quoi. Et j'ai l'impression que l'extrait que tu mentionnes, il dit aussi que en fait la femme elle est pas dans ce mouvement de conquête vers l'extérieur, mais qu'au contraire l'avancée, enfin si pouvait y avoir un progrès féminin entre guillemets, enfin même si du coup ça perdrait la critique, enfin ça serait plus un progrès critiquable on va dire, mais s'il y avait un progrès féminin ou une ligne telle qu'elle elle le dessine, ça serait dans l'approfondissement du sujet en fait, et du coup non pas le sujet qui va manger les objets à l'extérieur, mais plutôt qui se retourne sur lui-même et qui essaye d'approfondir je sais pas les éléments qui sont déjà en lui. Alors c'est
aussi dans les relations.
Et aussi dans les relations, en effet, dans le rapport de sujet à sujet, de personne à personne, et pas dans ce rapport de personne à des territoires ou des objets extérieurs.
Et aussi pour préciser, peut-être, pour redire ce qu'on disait tout à l'heure, si l'on dit, fait l'hypothèse que c'est la femme qui peut porter en elle, être porteuse de cette capacité-là, quoi, à aller dans l'approfondissement qualitatif des liens, ou d'elle-même ou des autres, c'est pas parce qu'elle est femme, c'est parce que historiquement elle a été de toute façon exclue de cette sphère de la rationalité, du progrès, de l'histoire, et que du coup C'est ce que Kiara appelle
l'avantage historique. Quoi. C'est pas quelque chose qui tient à une nature féminine en tant que telle, mais c'est de par le fait qu'elle en a été exclue. Et aussi, je pense que ce qui est important à mentionner, c'est qu'en fait, si... Enfin, l'homme, il y a une espèce de voie tracée parce que le fait de s'approprier des objets extérieurs, en fait, d'une certaine façon, on sait que la voie, ça va être, elle va être constituée par les différents objets qui résistent encore à l'emprise des hommes. Et en fait, ce qui est intéressant, et là, ça recoupe avec cette idée d'imprévisibilité, c'est qu'à partir du moment où on dit que ce qu'il s'agit de conquérir, c'est pas le monde extérieur, mais soi-même, et qu'on ne sait pas encore ce qu'on est soi-même.
Oui, soi-même ou le monde qui est constitué par les liens et les relations.
Par les liens et les relations.
C'est pas un truc purement existentiel.
Oui, non, c'est vrai. C'est pas uniquement vis-à-vis de soi en tant qu'individu, mais de en tout cas ce qui existe entre les individus et du coup qui n'est pas un objet extérieur mais qui est de l'ordre de la
et qui est forcément inconnu c'est forcément inquiétant inconnu. Presque quoi
ouais c'est ça parce que au moment où elle le dit en fait on sait pas le contenu de ça et du coup l'objet de la révolte féminine d'une certaine façon c'est d'aller se conquérir soi-même quoi. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans parce que à la fois ça nomme un endroit où il faut se concentrer et en même temps cet endroit il est complètement sans forme au moment où où on le dit quoi. C'est en gros réussir à faire surgir de soi toutes ces réserves les plus mystérieuses et les plus
mais moi j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que moi je le comprends pas comme étant un soi enfin j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut conquérir, c'est pas le monde au sens spatial, géographique, mais le monde qui existe entre les hommes, quoi. Et le monde commun qu'on a à construire, mais qui est un monde de relations, un monde de dialogue, un monde mais qui n'est pas un soi existentiel ou introspectif, quoi. Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de le comprendre, en tout cas.
Ouais, de ce point de vue-là, c'est bien le monde qui est infini. Et le fait de donner de l'énergie dans la conquête de ce monde-là, c'est permis par le fait qu'on ne donne pas des énergies ailleurs. L'idée que le fait de ne pas dépenser son énergie dans l'économie, par exemple, ça fait qu'on peut redonner de l'énergie dans l'investissement politique, cosmopolitique du monde et des relations.